Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi 11 février, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors ce matin, c'est encore très confortable, autour de zéro, point de congélation avec un ciel nuageux, 40% de probabilité d'averse de neige ce matin. C'est une journée là où il y aura un peu de pluie, un peu de neige, pas d'accumulation. Le maximum prévu d'ailleurs va tourner autour de 3 degrés. En soirée, c'est vraiment de la pluie avec des températures stables à 3 degrés, même durant la nuit. Et demain, samedi, ben c'est du temps un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire la pluie le matin, peut-être un peu de neige en après-midi, pas d'accumulation encore une fois, 4 degrés, c'est le maximum prévu. Et puis finalement, durant la soirée, les températures vont chuter. Durant la nuit, on prévoit autour de moins 18. Alors on passe vraiment de 4 le jour à moins 18 la nuit. Et dimanche, pour le Super Bowl, c'est du soleil, mais assez froid, moins 13 degrés. D'ailleurs, on prévoit du temps froid aussi pour le début de la semaine. Parlons évidemment du blocus à la frontière canado-américaine. Parlons de ce siège à Ottawa. Il y a eu également d'autres postes frontaliers qui ont été bloqués. Et ça prend une autre tournure, je vous dirais ce matin, parce que là, les Américains tapent du pied et demandent au gouvernement canadien de prendre les mesures nécessaires, surtout pour débloquer le corridor Windsor-Détroit. Je rappelle que c'est à peu près le quart du volume de marchandises qui transite entre les deux pays, ce qui peut représenter jusqu'à 450 millions de biens et de marchandises. Et déjà, je vous le disais hier, il y a des impacts mesurables sur l'économie. Il y a eu des arrêts de production, des mises à pied temporaires, notamment chez Ford, Toyota. Mais aussi, c'est sûr qu'il y a des retards dans les livraisons, donc ça vient affecter la vente au détail, puis ça vient affecter quand même pas mal de gens qui œuvrent dans le secteur manufacturier. Alors, pression qui s'accentue sur Justin Trudeau. On ne peut pas dire que le gouvernement fédéral, et M. Trudeau en tête, là, affiche un très grand leadership jusqu'à maintenant. Hier soir, il y a eu discussion avec les partis d'opposition. M. Trudeau leur a demandé que tous les députés dénoncent ce qui se passe. Les conservateurs le font. On a entendu la leader par intérim, mais on ne sait pas si... parce qu'il y a des appuis là, aux manifestants chez les conservateurs, M. Poilievre, entre autres. Alors, est-ce qu'il va dénoncer ce qui se passe? Et du côté du gouvernement de l'Ontario, le Globe and Mail dit ce matin qu'on prépare actuellement une série de mesures. Et ce sont des mesures là qui vont des amendes, saisies de véhicules et peut-être également la perte de permis commerciaux pour les camionneurs qui bloquent encore ce corridor vers les États-Unis. Alors, M. Trudeau a parlé avec M. Ford et il y aura déploiement aussi de policiers de la GRC, un nombre additionnel. Alors, c'est vrai à la frontière, puis c'est vrai aussi pour ce qui est d'Ottawa. Ottawa, ça bouge pas. Et il n'y a pas d'ajout de véhicules. Je pense qu'il y en a un qui a été retiré, mais il reste quand même 400 véhicules à peu près. Et des manifestants qui seront plus nombreux en fin de semaine. Et ils n'ont pas l'intention de s'en aller. Et hier, je voyais à Radio-Canada qu'ils ont fait une espèce de recherche sur qui sont les leaders. Puis je rappelle, là, tout ça est parti d'un mouvement de camionneurs en colère contre le passeport vaccinal obligatoire, donc la vaccination obligatoire, pour traverser du côté américain. Puis faut-il le dire, l'exigence est canadienne et l'exigence est américaine. Et on découvre quoi? Que parmi les manifestants, bien, on retrouve d'anciens militaires, d'anciens policiers, ce qui explique un peu le degré d'organisation. Puis de voir les gens faire comme ça du transport de diesel, avec des bidons, puis de la bouffe, puis de l'argent qui rentre, puis le fonds qui a fermé au Canada, on a ouvert un autre fonds aux États-Unis. C'est pas mal poussé par les Trumpistes, c'est pas mal poussé par ceux qu'on appelle la droite aux États-Unis, même l'extrême droite, et il y a ce courant, donc, de sympathie. Alors, ça a pris comme une autre dimension. On n'est pas juste dans les mesures sanitaires, on est aussi beaucoup dans la contestation du gouvernement. Puis d'ailleurs, on vous a fait entendre l'extrait hier matin, puis je n'ai pas insisté là-dessus, là, mais c'est le niveau de violence verbale qu'on retrouve chez les manifestants. Puis je vous fais grâce de quelques courriels que je peux recevoir, là, bourrés d'insultes. Il y a comme un problème de ton. On peut être en désaccord, on peut contester des mesures, mais quand on commence à évoquer le spectre de tuerie, de fusillade, puis qu'on fait des menaces de mort sans même s'en rendre compte, il y a quand même un problème. Puis on a eu le premier ministre hier, puis les partis d'opposition aussi, dénoncer ce qu'on vit actuellement. Tu sais, au Québec, là, on est dans la marche vers des assouplissements. Puis en fin de semaine, vous allez pouvoir vous rassembler plus nombreux à la maison, comme dans les restaurants. Les gyms vont rouvrir la semaine prochaine. Et jusqu'à la mi-mars, il y a donc ces mesures qui vont s'ajouter. Il reste l'enjeu toujours du passeport vaccinal, du masque, de l'urgence sanitaire. Mais tu sais, tu peux avoir une discussion. Puis entre-temps, ce qui se passe, c'est que ces convois qui bloquent viennent pénaliser d'autres travailleurs. T'sais, la liberté, c'est bien beau, là, la liberté de manifester. On est d'accord, mais manifeste, ça veut dire bouge. Et là, vous voyez, la mairesse de Montréal qui dit on ne peut pas tolérer que des camions viennent bloquer la ville. On peut faire bien des farces sur l'état de la ville, puis des travaux, puis des rues étroites, là. Mais on veut se préparer en France. Et on va parler avec un organisateur de cette manifestation en France. Ils partent beaucoup du sud de la France et sont en route vers Paris. Et il n'est pas question de les laisser passer comme convoi. Est-ce qu'on va les laisser entrer, les empêcher de s'immobiliser dans des endroits stratégiques de la capitale française? C'est en tout cas le plan officiel qui est donné par les autorités là-bas. Puis en France, et en fait à Paris, c'est pas simple nécessairement de manifester. Ça prend des autorisations, il faut donner un parcours. Les règlements à Montréal ont été beaucoup contestés, mais je me souviens, durant la crise étudiante, on faisait des parallèles avec, évidemment, ce qu'on demandait du côté français. Alors, en résumé, on voit le ton qui est agressif, on voit le ton qui monte, et on voit les pressions aussi, parce que le gouvernement Trudeau fait peu de choses. Pèle-te ça dans la cour de la ville puis de la province. Et est-ce qu'on va remorquer les poids lourds? Est-ce qu'on va les tasser? L'association des remorqueurs disait, nous, on fait pas ça. Pas notre job. On déplace des véhicules en panne, pas des véhicules qui protestent, entre guillemets. Et ça va durer encore combien de temps? Puis Rimbaud et ses troupes qui veulent revenir à Québec la semaine prochaine. Alors, on voit que la crise semble pas avancer, qu'il y a peut-être des discussions, mais on est face à un groupe avec des intérêts divers. Puis t'as une minorité qui brasse assez, la alt-right, comme on appelle, la droite alternative. Parle pas d'insurrection, parle pas de contestation puis de renversement de gouvernement, mais pas loin. Sur certains, je dirais, certaines pages Facebook, puis dans certains échanges, puis quand on les écoute parler, ça ressemble un peu beaucoup à ça. Peut-être un mot pour vous dire qu'il y a des manifestations. Je parlais de Paris, là, mais en fin de semaine, on prévoit qu'il pourrait y avoir manifestations importantes également à Los Angeles pour le Super Bowl et les camionneurs américains qui veulent mettre sur pied un convoi qui pourrait partir, ça a commencé, là, mais la Californie pour ensuite faire route vers Washington. Encore là, toujours dans ce mouvement qui touche quand même bon nombre de pays. Je parlais de la Nouvelle-Zélande, il y a quelques minutes. Bon, voilà pour le dossier camion. Pour ce qui est, je vous dirais maintenant, de COVID et tout ça, il n'y a pas tant d'éléments nouveaux, si ce n'est que les nouvelles règles vont s'appliquer à partir de demain, je le disais, pour les restaurants, pour les rassemblements. Et ce sont des recommandations. Alors, il n'y a pas cette notion d'obligation qu'on retrouve habituellement avec l'ensemble de ces mesures. L'autre élément qui est important, puis je n'ai parlé hier, puis c'est encore dans la Cour du fédéral, ça concerne le contrôle des frontières avec les fameux tests. Et on a vu là, la situation évoluer. Et on se demande encore pourquoi les Canadiens doivent passer un test PCR quand ils reviennent de l'étranger. Les Canadiens, puis les voyageurs, les touristes également. Il y a beaucoup de gens de l'industrie touristique qui se sont manifestés. Il y a des médecins également qui disent que cette consigne-là, ailleurs, ça n'existe pas. De passer un test, d'abord d'avoir une preuve vaccinale, parfait. De passer peut-être un test avant de revenir, parfait. Mais pourquoi retester encore quand on arrive ici? Puis ça peut être aléatoire, ça peut être également pour tout le monde. Puis je vous ai raconté des gens qui se sont fait virer de bord à la frontière parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le résultat du fameux test. Alors, d'exiger de gens pleinement vaccinés avec un test négatif récent, là, dans les 48-72 heures, un autre test, c'est comme too much. Et puis des gens qui n'ont pas de symptômes en plus, là. Alors, tu dis, mais pourquoi? Et on voit comment Québec a pris son virage. C'était pas possible peut-être il y a 6 mois, c'était peut-être pas possible d'envisager ça il y a 1 an, mais maintenant, il faut arrêter d'écœurer les gens qui voyagent, les gens qui vont se déplacer. Puis tu essaies de faire revivre l'économie. Alors, disons que à suivre. Je veux vous parler de deux choses ce matin. Encore les gens qui ont des problèmes avec des conduites d'eau gelées. Et plus on en parle, plus on en découvre dans différents arrondissements de Montréal. Puis je veux bien le froid, là, mais c'est quand même assez aberrant de constater la lenteur pour corriger la situation. Puis, tu sais, de se faire dire, là, on va aller te porter un peu d'eau une fois de temps en temps. Je m'excuse, là. Quand vous regardez le compte de taxes, tu t'attends à des services de ta ville, de ton arrondissement. Puis, t'as beau avoir toutes les raisons au monde, là. Puis, de gosser les gens, puis retarder, tu sais. Appelez un plombier, madame. Puis là, le plombier vient, puis il dit, ben non, c'est du côté de la ville. Ah. Fait que là, peut-être t'as gagné un peu de temps dans les délais. Puis de dire aux gens de faire couler l'eau jusqu'au mois d'avril, je veux dire, il va falloir que quelqu'un nous explique. Il n'y a personne qui parle à la ville. On a finalement convaincu la responsable du dossier de l'eau, là. Elle va être avec nous un peu plus tard. Et l'autre dossier ce matin, ça concerne ce qui se passe dans les urgences en Mauricie. Il y a un homme qui est décédé. Il était dans une ambulance. Et c'est là qu'on a découvert un peu la procédure de triage. C'est un monsieur âgé. Ce qui serait mort de toute façon, peut-être, mais la mécanique est la suivante. Vous arrivez en ambulance, vous attendez dans le garage avec les ambulanciers qu'on vous permette d'entrer à l'hôpital pour être trié. Toujours les mêmes raisons. On manque de personnel, la COVID fait en sorte que ça déborde. Tu te dis, attends un peu, t'es au Québec, là. On a vu, puis c'est encore vrai dans certains coins, des urgences fermées. Mais là, les patients arrivent. Puis tu peux rester 2 heures dans l'ambulance. Ce qui veut dire aussi que les ambulanciers restent avec toi. Ce qui veut dire aussi qu'il y a moins d'ambulances de disponibles sur la route. Puis il y a des paramédics de la Mauricie qui m'ont écrit hier, qui m'ont donné un paquet d'exemples où ça a pris 1 heure, ça a pris 2 heures, ça a pris 3 heures avant qu'ils puissent repartir. Fait que disons que c'est assez particulier comme façon de faire. Puis on se défend en disant on n'a pas le choix, puis on reconnaît que les temps d'attente sont trop élevés, mais que on n'a pas le choix, tout simplement. Et puis un mot aussi sur 2 projets, le REM de l'est de la ville. Alors, Mme Plante nous a dit, il l'a répété, elle veut le projet, mais elle veut que ça soit beau. Puis le premier ministre a dit, j'ai parlé avec Mme Plante, c'est ce que la mairesse nous avait dit aussi. Puis là, on vous promet que ça va être beau. On vous promet que le REM, là, ça sera pas laid. Puis la caisse de dépôt met de la pression, puis on sent que il y a de l'opposition, beaucoup, des gens qui sont près du parcours, puis aussi de d'autres qui disent que c'est impossible de faire une structure qui soit belle. Puis la caisse promet de rendre ça public bientôt. Là. On verra ce qui va se passer. Puis le troisième lien à Québec, là, M. Legault, parle d'un troisième lien avec peut-être moins de voies pour les voitures. Il est en train de refaire le programme. Puis là, on parle dans les 2 cas de projets de 10 milliards. Mais il va de l'avant avec le troisième lien, mais peut-être plus des voies pour le transport collectif, puis peut-être moins tout court pour les routes. Je pense avoir lancé le débat à Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Joanne Beausoleil dirigeait la Sûreté du Québec de façon intérimaire et cette semaine, en fait, ça a été annoncé la semaine dernière, mais l'assermentation a eu lieu. Elle est maintenant la directrice générale de la Sûreté du Québec pour les 7 prochaines années. Elle est avec nous ce matin. Madame Beausoleil, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je vais commencer évidemment avec l'actualité brûlante, comme on dit. On voit ce qui se passe à Ottawa, on voit ce qui se passe à la frontière. Il y a des manifestants qui, semble-t-il, veulent venir à Montréal. Des postes frontaliers, on en a au Québec. Quel portrait vous avez de la situation au Québec actuellement?
Bien, nous, on a amorcé, évidemment, depuis déjà quelques semaines, le renseignement. On suit ça de très, très près. On a vu la manifestation à Québec qui s'est très, très bien déroulée la semaine dernière. Maintenant, on se prépare, on est à l'écoute, on regarde un peu ce qui se profile devant nous, s'ils vont venir aux douanes, c'est-à-dire ou venir à Québec. Alors, on travaille avec nos partenaires, que ce soit Québec, Montréal, l'Agence de services frontaliers. Donc, on est en train de regarder tout ça et d'analyser nos actions.
On a vu à Québec qu'un des éléments de la stratégie, c'était de faire en sorte que les gens ne puissent pas s'immobiliser, s'arrêter, donc de les garder en mouvement, à part quelques exceptions. Là, je pense à la soirée et la nuit. Est-ce que c'est la même stratégie, par exemple, pour les postes frontaliers?
Bien, chaque dossier est regardé différemment. Hein. Évidemment, quand il y a des impacts, puis que ça a, d'arrêter la circulation et tout ça, puis qu'on a des enjeux, bien, on le tolérera pas. Mais chaque stratégie, chaque événement est regardé de façon distincte. Donc, c'est pas impossible que ça fasse partie aussi des stratégies, que ça roule, puis que ça, on n'empêche pas là, les gens de circuler.
OK. Je prends l'exemple des ponts là, pour Montréal. Il n'est pas question de tolérer que les ponts soient bloqués, que les camions s'immobilisent, par exemple, sur le pont Jacques-Cartier?
Non, absolument pas. Absolument pas. On va s'organiser pour que ça roule.
Est-ce que vous pouvez décider ça par vous-même ou, compte tenu du contexte, ça prend quand même, appelons ça, une autorisation politique ou une commande politique pour faire ça?
Non, les plans d'action sont faits là à partir des organisations policières. On les fait en partenariat, que ce soit avec le SPVM, le SPVQ, puis on regarde aussi l'équilibre entre le droit citoyen de manifester, évidemment, parce que c'est quand même un droit, mais ça se fait uniquement en termes d'opérations policières.
Avez-vous tiré des conclusions de l'expérience d'Ottawa puis de ce qui se passe à la frontière avec les États-Unis? Avez-vous tiré des leçons de ça?
Ben tirer des leçons, on est quand même habitué au Québec hein, aux manifestations depuis de nombreuses années. Alors, on a évidemment analysé, regardé, on est encore au niveau du renseignement très présent pour voir qu'est-ce qui se passe et les stratégies qu'ils ont. Puis, on a adapté, nous, nos stratégies à Québec qui ont bien fonctionné, puis on compte bien le faire pour les événements à venir.
Sur une échelle de 10, vous donnez quelle note à la police d'Ottawa?
Eh mon Dieu, on est tellement différents avec nos niveaux de service, notre partenariat et tout ça. Ce serait pas juste pour moi de vous donner une note pour.
Ben ça serait pas juste pour eux peut-être, mais entre vous et moi c'est pas fort.
Ben tu sais, en tout cas c'est pas la stratégie que nous on a adoptée là. Tu sais pour Québec là, fait que ça c'est je sais pas, on n'est pas présent sur place. Alors évidemment là, de dire tout est dans la préparation. Est-ce que le renseignement a pas été suffisant? Est-ce que la préparation n'était pas adéquate? Je ne pourrais pas dire, mais ce que je sais, en tout cas pour le Québec, nous, on a été vraiment très satisfaits de la façon que ça s'est déroulé.
Quand vous parlez du renseignement, est-ce que ce matin, vous êtes en mesure de me dire que tout indique qu'il y aura donc encore une manif à Québec la semaine prochaine, qu'il y a des gens qui s'en viennent vers Montréal? Avez-vous de l'info, là, je veux pas des secrets, là, mais qu'on peut partager avec les auditeurs ce matin?
Bien, tout va aussi dans le comportement citoyen, hein, dans le comportement des manifestants. On l'a vu avec Québec, ce qui s'est passé. Il y a certains groupes qui ont plus, qui se sont plus engagés. Il y en a qui sont moins engagés. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau du renseignement, on suit ça. On le sait qu'ils vont être à Québec. Ça, c'est clair. On est en contact avec eux aussi. Puis là, c'est de voir l'équilibre entre le droit de citoyen de manifester puis les activités qui doivent continuer aussi, là, que ce soit des activités économiques ou le carnaval qu'on a vu la semaine dernière, ou si ça se passe aux douanes, évidemment que les gens puissent circuler là, de façon fluide. Là.
On laisse entendre que pour ce qui est d'Ottawa, il y a d'anciens policiers, d'anciens militaires qui auraient, j'allais dire, infiltré le mouvement ou en tout cas qui seraient actifs. Est-ce qu'on a ce genre de profil-là dans ceux qui manifestent au Québec?
Dans ceux qui manifestent, ben je vous dirais qu'il y a un petit peu de tout dans les citoyens. Hein. On l'a vu. Là, il y a eu quand même beaucoup d'assouplissement. Donc, il y a des gens qui sont moins intéressés à embarquer dans les manifestations aussi, avec les assouplissements qui ont été annoncés au niveau du Québec. On le sait qu'au niveau du renseignement, il y a des gens d'un peu partout aussi qui s'intéressent à ce qui se passe au Québec, puis à Ottawa, évidemment. Donc, on est quand même en collaboration aussi avec Ottawa pour voir, puis avec nos collègues de la GRC.
Mais trouvez-vous du monde qu'on associe à l'extrême droite, des gens qui ont un certain passé, puis des gens qui peuvent représenter davantage que des manifestants sincères et pacifiques un potentiel de danger?
Oui, il y en a. Oui, je pourrais pas vous dire qu'il y en a pas. Il y en a. C'est le reflet hein, de ce qui se passe aussi ailleurs. Donc oui, il y en a dans ça, puis on les suit de près.
Le niveau de menace à l'endroit des politiciens, des messages haineux qui sont envoyés sur les réseaux sociaux directement à des élus, est-ce que vous notez une augmentation puis une tendance inquiétante?
Tendance inquiétante, j'en profiterais pour vous dire rappeler aux gens que nous, on est très actifs sur les médias sociaux au niveau de la Sûreté du Québec. Nos gens travaillent de façon intensive. Alors, quand les gens pensent qu'ils écrivent des commentaires et qu'il n'y a pas de suite des commentaires haineux, des menaces et tout ça, on a arrêté plusieurs personnes quand ils nous voient arriver à la porte et sont un peu surpris. Donc, on a quand même fait différentes arrestations, puis on est très, très présent et actif. Donc, faut pas penser que parce qu'on écrit quelque chose sur les médias sociaux qu'il n'y aura pas de suite.
Mais est-ce qu'il y en a plus qu'avant?
Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Ben ça monte et ça descend. Je vous dirais, ça dépend un peu du climat social et tout ça. Là, présentement, c'est associé beaucoup aux mesures sanitaires. D'autres moments donnés, c'était d'autres types de menaces qu'on pouvait sentir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est clair qu'on est très actifs et on ne les laisse pas passer. On a eu plusieurs accusations, d'ailleurs, là, pour plusieurs personnes.
Mais en un an, là, vous pouvez arrêter combien de personnes là, pour menaces ou commentaires haineux?
Oh, il y en a, c'est variable.
Mais à peu près?
Ce serait difficile pour moi de vous dire ça ce matin. J'ai pas les statistiques avec moi, mais chaque semaine, là, on peut en prendre là, peut-être, ça joue une dizaine, une vingtaine, ça dépend toujours. Puis c'est pas toujours retenu non plus au niveau du DPCP, mais compte tenu qu'on est très actif, très présent, ben au moins les gens ils ont un avertissement quand ils nous voient arriver. Là.
En fait, il faut qu'ils réalisent que ça tombe pas dans le vide, là, puis que c'est pas une farce, là, puis qu'on menace quelqu'un de mort. Là, on peut pas dire après, ben c'était pas sérieux mon affaire, c'est une blague.
Non. Effectivement. Les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. C'est impossible.
Madame Beausoleil, je vais vous parler un peu de votre poste, votre nomination. Vous êtes une civile. Il y en a eu dans le passé des civils là, qui ont occupé la fonction. Dans le contexte actuel, diriez-vous que c'est un avantage ou un inconvénient d'être civile?
Ben moi, j'ai jamais, là, ça fait quand même, ça faisait 25 mois que je faisais l'intérim, là, de, un peu plus de 2 ans. J'ai jamais senti cette différence-là au niveau de mes... au niveau de mon ma gouvernance, je vous dirais, de façon générale. C'est sûr que oui, je suis une civile, mais j'ai été agent de la paix toute ma carrière. J'ai travaillé, ça fait plus de 30 ans que je travaille en sécurité publique. Alors, les gens au niveau de la sûreté font pas vraiment... Tu sais, c'est pas un enjeu là dans ma gestion. Là, c'est pas vraiment un enjeu. Mais est-ce que c'est mieux? Ben moi, je vous dirais là qu'un ou l'autre, là, essentiellement, l'important, c'est d'avoir la bonne personne qui fasse le mieux, puis qu'on travaille en collaboration, tu sais, puis je le fais vraiment de façon très positive avec les équipes, les membres de la sûreté, là. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que ça a été 2 années très, très, très occupées. On a été au rendez-vous, puis c'est grâce à eux si on travaille si efficacement aujourd'hui.
C'est quoi votre priorité? Je comprends assurer la sécurité des citoyens, le territoire et tout ça, mais dans le lot, est-ce qu'il y a une priorité qui se dégage? On a vu l'implication des corps policiers pour le trafic des armes, par exemple, puis les cas de violence avec justement des armes. C'est quoi la priorité que vous avez?
Ben, il y a 4 priorités que je me suis données. Évidemment, je vais aller dans la continuité, mais la priorité 1, c'est d'investir dans notre capital humain puis prendre soin de nos gens. La pandémie a été quand même difficile pour l'ensemble de nos personnes. Donc, de travailler sur leur développement, sur la relève, d'être attractif comme organisation, puis s'assurer du bien-être policier, ça, c'est vraiment la priorité numéro 1. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les 2 dernières années, puis je vais continuer. Je veux aller aussi rencontrer nos partenaires, puis rencontrer nos employés encore plus sur le terrain. On est allé un petit peu moins compte tenu de la COVID, hein, ça nous a un peu limité dans nos déplacements. Puis, comme vous l'avez dit tantôt, tout le volet de criminalité, de renforcer le sentiment de sécurité de nos citoyens, mais tu sais, qu'ils sachent qu'on est là aussi pour offrir un service. Puis en même temps, ben tout le volet du virage de la police de demain, tu sais, assumer le leadership qui nous est reconnu. Tantôt, vous parliez des grands dossiers. Oui, on a plusieurs grands dossiers qu'on a travaillé.
Moi, ça me fait toujours un peu peur quand on dit la police de demain, parce que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire.
Ben, tu sais, dans le fond, c'est en lien avec tout le rapport du CCRP, du comité consultatif, où est-ce que on avait quand même des grands enjeux dans certains dossiers, là, tu sais, que ce soit des dossiers de disparition, de gouvernance, de partenariat, de renseignement. Donc, on s'en va avec tous les projets de loi aussi. Il y a des projets de loi qui ont été déposés au niveau de la déontologie, au niveau des changements législatifs là, qu'on peut apporter pour travailler de plus en plus avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires municipaux ou encore autochtones.
Les armes, j'en ai parlé un petit peu là tantôt. Oui. Là, est-ce que vous êtes en mesure de nous faire un bilan de ce qu'on a saisi comme armes dans les différentes opérations?
J'ai pas le bilan avec moi, mais je peux vous dire que au niveau des armes, que ce soit dans nos équipes intégrées de lutte au trafic d'armes à feu ou encore dans l'opération Centaure, on est très, très actifs. Puis on fait beaucoup de renseignements, puis on veut aller chercher aussi non seulement ceux qui possèdent, là, nos opérations sont très hebdomadaires, non seulement ceux qui possèdent, mais ceux qui fabriquent les armes à feu. Alors, c'est des dossiers qu'on travaille là avec l'ensemble de la communauté policière, puis on a de très bons résultats. On est très, très satisfaits là, de Centaure, notamment là avec nos collègues.
Est-ce qu'on a plus d'armes importées que d'armes fabriquées au Québec?
Les armes importées, oui, je dirais, il y en a plus. Okay. Oui. Mais tu sais, des fois aussi, ça rentre par morceaux. Hein. C'est pas toujours... les armes complètes, c'est des pièces d'armes qui rentrent puis qui sont assemblées ici.
Madame Beausoleil, merci. Bonne journée.
Ben, je vous remercie. Bonne
journée. Au revoir. Joanne Beausoleil, la directrice générale de la Sûreté du Québec.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Je reviens sur la situation de citoyens de Montréal qui sont privés d'eau en raison du gel de conduite. Cette semaine, une citoyenne d'Outremont était avec nous. Elle n'avait pas d'eau courante depuis plusieurs jours et là, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup de courriels de gens qui vivent ça dans différents arrondissements de Montréal, dans le quartier Mercier et dans Tétroville. J'en parle d'abord avec Mme Christine Proulx, citoyenne de Tétroville. Mme Proulx, bonjour.
Bonjour.
Ce que je comprends, c'est que les tuyaux chez vous sont gelés depuis le 1er février.
Exactement. On est privé d'eau depuis cette date-là.
OK. Et qui vit avec vous dans l'immeuble?
J'ai mon conjoint et ma mère qui a 88 ans.
Qui habite dans son logement, là, elle?
Oui, c'est une personne autonome et puis bien indépendante. Fait que on l'aide comme on peut, mais elle veut aller chercher sa neige elle-même. Ça, c'est notre routine là, quotidienne. On va chercher des chaudières de neige qu'on met dans des chaudrons, qu'on fait fondre pour pouvoir faire écouler la toilette.
Et vous faites ça depuis le début, là, depuis le premier?
Oui, monsieur. Parce qu'on n'a pas eu d'aide. Personne n'est venu nous porter d'eau. Aucunement des bidons ou rien de ça. On n'a pas eu de téléphone, savoir si on avait besoin de quelque chose, rien du tout.
Dites-moi, est-ce que vous avez appelé la ville pour signaler le problème? Est-ce qu'il y a des gens de l'arrondissement qui sont allés? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont commencés? Il se passe quelque chose ou pas?
OK. Le premier, on a appelé à la ville au 3-1 aussitôt que c'est arrivé. On a eu un patrouilleur qui est passé vers l'heure du souper. Lui, il a regardé là, le bonhomme sur le bord du trottoir pour voir si, qu'est-ce qu'il y avait. Il me dit « Ah oui, ça a de l'air gelé », mais il dit « La ville fait plus ça, dégeler les tuyaux, il faut que vous appeliez un plombier. »
Oui, mais quand, okay. quand le tuyau appartient à la ville, c'est pas votre plombier qui va toucher à ça.
Oui, mais je sais pas, mais en tout cas, il nous a dit qu'un dépisteur passerait. Le 2, un superviseur est repassé. Il nous a donné un petit papier pour nous dire que maintenant, il faut faire couler l'eau 24 heures sur 24 pour éviter que ça regèle. Nous, on a essayé de trouver un plombier qui nous a dit qu'il viendrait le 3. Fait que le plombier est venu le 3. Puis là, il nous a dit que non, il confirme que lui, c'est pas son ressort, puis qu'il peut faire, il peut pas dégeler le tuyau, puis que c'est près du bonhomme, fait que c'est la ville. Fait qu'on rappelle au 3-1. Là, au 3-1, on a insisté beaucoup. Puis là, finalement, ils nous disent, ben oui, on dégèle encore les tuyaux, mais il y a une longue attente, c'est au moins 5 jours. Toujours pas de dépisteur. Le dépisteur est supposé essayer de trouver d'où vient le problème, là. Fait que vendredi, sort le 4 février, toujours pas de nouvelles de personne. Cette année, on a écrit à notre maire d'arrondissement. Son adjointe nous a rappelé au début de la soirée, nous disant qu'on était des citoyens modèles, qu'on avait respecté le protocole, on a appelé au 311, on a fait ce qu'on devait faire. Puis que là, il nous encourageait, puis il était pas pour nous laisser tomber. Fait qu'il était pour s'occuper de nous. Fait qu'on attend samedi, dimanche, pas de nouvelles, puis on vient un peu découragé parce qu'on sait pas est-ce qu'il travaille les fins de semaine. Notre nom est sur la liste, mais il est où sur la liste? Aucune idée. Fait que lundi, on rappelle au 3-1, lundi cette semaine. On est rendu, ça fait 7 jours là, qu'on est dans cette situation-là. On peut pas parler à personne. Personne, okay. Au 3-1, là, il nous passe pas les travaux publics, rien.
OK, Mme Proulx, 2 ou 3 questions. Donc, à oui? ce moment-ci, là, toujours pas d'eau?
Pas d'eau.
OK, toujours pas vu personne venir faire des travaux?
Non, personne.
OK, avez-vous reçu votre compte de taxes?
Certainement.
J'étais sûr que ça, c'était pour se rendre. Madame Proulx, merci d'avoir pris le temps, de nous écrire et de nous parler ce matin. Maintenant avec nous, Maya Vodanovic, qui est la mairesse de la Chine et qui est la responsable, justement, du dossier du service de l'eau. Madame Vodanovic, bonjour.
Bonjour, bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, vous avez entendu Madame Proulx. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
Oui, oui, j'ai entendu Mme Proulx, puis d'ailleurs, j'ai appelé Mme Proulx aussi hier soir, j'y ai parlé pour voir vraiment c'était quoi les étapes qu'ils ont suivies, puis comment le tout s'est passé. J'ai parlé à différents citoyens dans différents arrondissements pour voir c'était quoi le système qui était mis en place par la ville pour régler cette situation-là, pour mieux comprendre. Parce que, vous savez, on vit une situation vraiment critique en ce moment, là, avec les changements climatiques qui nous amènent la glace, hein, vous le savez, là.
Attendez-moi 2 secondes, là. Je suis bien d'accord qu'il a fait froid, là. Je veux bien les changements climatiques, mais vous poser 2-3 questions précises. La première, à votre connaissance, il y a combien de citoyens dont les tuyaux sont gelés, les tuyaux de la ville et qui n'ont pas d'eau à Montréal actuellement?
En ce moment, il y en a 55. Il y en avait 330 au début. Ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs citoyens qui ont re-eu l'eau parce qu'on travaille.
Est-ce que c'est normal que quand on signale le 1er février le problème, puis qu'on est rendu au 11, puis qu'on n'a pas d'eau?
C'est pas une situation normale. Puis c'est ça que j'essayais de vous expliquer, M. Arcan. C'est que c'est quelque chose d'inhabituel, puis ça a rapport au changement climatique. Parce qu'avec les changements climatiques, il y a de la glace au sol, puis il n'y a pas de neige. Puis la neige protège les tuyaux, ça sert comme un isolant. Alors là, les tuyaux vont geler plus vite. Puis la ville, elle doit maintenant traiter des tuyaux gelés. C'est quelque chose de nouveau qu'elle doit faire. Elle l'a fait en 2015. En 2015, on a appris des choses, on a réglé certaines choses, on a isolé des tuyaux qui ont gelé. Mais là, ça recommence, puis on se dit, hey, puis là, on regarde où ça gelait.
OK, mais y a-t-il moyen d'accélérer la procédure que des gens à Montréal, en 2022, aient pas d'eau parce que les tuyaux de la ville sont gelés puis que ça fait depuis le 1er février? Vous aurez beau me sortir tous les arguments, j'en achète pas un, c'est pas normal.
C'est pas normal, mais vous savez, M. Arcan, qu'on a nous aussi une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie de plombiers, d'électriciens, puis on a aussi la COVID qui fait en sorte qu'on a moins de cols bleus qui travaillent. Il y a moins chez nous, c'est pareil comme ailleurs. On a une pénurie de main-d'œuvre.
Mais vous n'avez pas de pénurie de main-d'œuvre pour envoyer compte de taxes, par exemple. Ça rentre au poste.
Mais vous savez combien. Puis je suis contente que vous parliez de l'eau. Parce que moi, je suis responsable de l'eau. Puis il y a plus de 700 millions qui vont dans l'eau à chaque année. Parce qu'on fait des réservoirs, des nouveaux réservoirs pour pouvoir réparer des vieux réservoirs. On change les conduits sur terre. On branche les gens. On s'assure que l'eau, elle est bonne et de bonne qualité parce que c'est essentiel. Mon Dieu, que c'est essentiel. Puis on le sait quand on en manque.
Okay,
comment c'est essentiel. Mais c'est quelque chose de nouveau.
OK. Est-ce que ça se peut que dans certaines rues de Montréal où on a changé justement les conduites d'eau, l'installation soit différente et que le risque de gel est plus élevé qu'il l'était?
C'est ça qu'on va analyser. On va l'analyser parce que c'est pas le cas partout. J'ai appelé plusieurs personnes, puis c'est différentes choses, mais on va l'analyser, puis on va vous revenir. Parce qu'il se peut, quand quelqu'un vient de faire une excavation, que le sol soit pas assez compact par-dessus. Alors ça se peut, mais moi, je dois vérifier, puis je dois vérifier à toutes les adresses où est-ce que ça s'est passé, c'était quoi la situation, pour qu'on puisse intervenir mieux la prochaine fois.
Une question,
puisse prévenir tout ça.
OK, Madame Proulx, mais je pensais à Madame Proulx. À quel moment on va retrouver l'eau?
Elle va retrouver l'eau le plus vite possible.
Non, c'est pas une réponse, ça.
Je peux vous garantir, mais il y a des gens qui sont là, puis moi, j'aimerais dire à Madame Proulx, elle peut toujours demander de parler à son conseiller, au maire ou à son conseiller, puis qu'il appelle.
Ça va changer quelque chose, ça.
Qu'elle demande de l'eau. Puis au 3-1, c'est un peu ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens appellent au 3-1, ils disent, ben attendez, mais les gens peuvent dire, je veux parler à mon conseiller parce que je veux savoir où ma requête est rendue à l'intérieur du système. Ça veut pas dire, s'il y a personne sur le terrain, ça veut pas dire que les gens travaillent pas, c'est que les gens se sont pas encore rendus. Parce que vous savez...
Non, mais écoutez, vous êtes le 1er février, vous avez pas d'eau, vous êtes rendu le 11 au matin, vous n'avez pas, là. Fait qu'on a beau être philosophe puis demander à la grand-maman d'aller prendre sa chaudière puis de faire bouillir l'eau de la neige. Mais on n'est toujours pas dans les filles de Calais puis dans le temps d'une paix, là.
Non, monsieur Arcan, mais c'est une situation exceptionnelle puis on essaie de la régler.
OK, merci. Savez, merci.
Pas... Au revoir.
OK, au revoir. Les parodies, c'était quand même les folies dans une heure. Environ une heure. 88 ans, puis elle descend, prend sa chaudière, elle remonte la neige, puis fait chauffer pour avoir de l'eau pour les toilettes. Puis là, c'est rendu que c'est la faute du citoyen. Hey, appelle, puis demande à parler au conseiller, puis demande à avoir de l'eau. C'est ta job à toi, citoyen, de faire ça, là. 3-1, ils peuvent pas te proposer. Si t'appelles et tu dis que t'as pas d'eau, ils peuvent pas y penser de suggérer fortement. Ça me rend dingue. C'est un drôle de matin, là. Tu sais, c'est... Pourtant, je suis entré de bonne humeur, Catherine.
Oui.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très,
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On a un petit enjeu de temps. Je vous explique pourquoi. Parce que le nouvel entraîneur du Canadien est avec nous, puis il faut que je le libère bientôt. Restez là et on aura des chansons de la Saint-Valentin. Alain vient d'arriver. Alors, le Canadien qui a perdu hier, mais j'ai senti que tu étais plus optimiste.
Oui, honnêtement, hier, pour la première fois, on avait un Canadien beaucoup plus engagé, combatif, dans la lutte jusqu'à la fin. N'eût été de ce hors-jeu. Là, le Canadien aurait réduit l'écart à un seul but en fin de troisième période. Le Canadien était dans le match jusqu'à la fin, là, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps.
Martin Saint-Louis, bonjour.
Bonjour.
Puis, votre bilan pour le premier match, qu'est-ce que vous avez pensé de vos joueurs?
Écoute, ça a été un départ un petit peu difficile, mais pas parce que on n'était pas prêts ou on n'a pas fait des bonnes choses. On a eu une couple de mauvais bons, mais moi j'étais content comment ils ont rebondi puis on est revenu dans le game. Puis qu'est-ce que je leur demandais de faire hier, que tu sais, j'étais arrivé, puis j'ai pas eu grand temps vraiment de d'enseigner ce que je vais enseigner, mais qu'est-ce qu'on a parlé, on a fait ça juste en sur le tableau, si tu veux, comme je dis. Puis c'est une idée de jouer, comme on dit, on top de l'autre équipe. Ben, je trouve qu'on a fait ça beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'on n'a pas donné Washington beaucoup d'espace. Je trouve qu'on a possédé la rondelle beaucoup, beaucoup. Puis tu vois que les gars, ils ont... Côté offensivement, on s'est amélioré. Plus la game elle avançait, plus qu'on s'améliorait offensivement, plus qu'on créait. Puis je crois, plus que tu possèdes la rondelle, plus que tes joueurs y touchent. Quand ils y touchent, mais ça te donne un petit peu de confiance. Puis la confiance, mais ça te fait lire le jeu offensivement un petit peu meilleur. Puis ça te donne des chances de marquer. Puis peut-être c'est des buts, tu sais. Le gardien de Washington il a très, très bien joué, mais je peux te dire qu'on s'est donné une chance à gagner ce match-là. S'il y a une chose qu'on n'a pas faite hier, c'est qu'on n'a pas gagné. Mais à part de ça, là, moi, j'étais très, très fier de notre match, comme un premier match.
Bon, dites-moi une chose. Quand vous êtes arrivé dans le vestiaire pour la première fois devant vos joueurs, qu'est-ce que vous leur avez dit?
Ah, écoute, je n'irai pas en détail, mais je peux te dire, tu sais, dans n'importe quelle opportunité, situation, nouveau départ, quand tu es en position de leadership, tu as vraiment une chance à la première impression. OK? Fait que c'est quelque chose que j'ai pensé beaucoup, puis, tu sais, j'étais prêt pour ce meeting-là.
Martin, tu t'as dit hier, lors du point de presse, hier midi, que tu te préparais à devenir entraîneur depuis 10 ans, là, depuis que tu avais pris ta retraite comme joueur. Sur le plan personnel, pour toi, là, est-ce que ça s'est passé derrière le banc comme tu l'avais imaginé au cours de ces 10 années-là? Là, tes réactions derrière le banc, l'interaction avec les joueurs, est-ce que c'est ce que tu avais imaginé au cours des années?
Ouais, mais... tu sais... Quand tu dis ça fait 10 ans, oui, c'est vrai, ça fait 10 ans, mais moi, je te dirais que mes dernières années dans la Ligue nationale, je commençais déjà à penser qu'est-ce que je voudrais faire après, mais je savais que je voulais passer du temps avec mes enfants. Fait que, tu sais, c'est tout, je commence à prendre bien les notes mentales, des notes écrites et tout, mais côté vraiment l'embarquer et être sur le banc, je peux te dire qu'hier, tu sais, avec beaucoup de joueurs que je connais pas vraiment, comment leur surnom, comment ils se font appeler, leur numéro vraiment. Tu sais, moi je suis arrivé ici hier puis changé tous les trios. Fait que j'essaie de me rappeler qui joue avec qui. Fait que je suis le temps après regarder sur ma feuille. Fait que tu sais, c'était un petit peu difficile hier pour moi. Puis j'ai été chanceux. J'avais Trevor Letowski qui était à côté de moi, qui lui a un bon feel, tu sais, comment que qui joue avec qui. Puis les gars, c'est pas comme si les gars sont tout le temps à côté de l'autre. Et des fois, il y en a qui restent au bout du banc puis tout. Fait que lui m'a averti, OK, il est là puis tout. Mais plus que je commence à connaître mon équipe, puis un, les masques, c'est pas facile à coacher qu'un masque. Fait que je peux te dire que c'était c'est quelque chose qui m'a surpris, puis je suis content que j'avais trois assistants sur le banc avec moi.
Il y a quelque chose que vous avez dit hier au point de presse qui était assez clair. Vous avez dit, moi, j'ai connu à peu près tous les statuts là, de joueurs qui cognent à la porte pour jouer, de celui qui joue dans les mineurs, celui qui est sur le quatrième trio, puis qui devient finalement un des tops de son équipe et un joueur vedette dans la Ligue. Fait que vous êtes capable de comprendre un peu à peu près tous vos joueurs, là, comment ils peuvent se sentir.
Oui, c'est sûr. Tu sais, puis je pense que c'est une des choses les plus importantes pour les joueurs, c'est de... tu sais, ils ont toutes des différentes attentes, tu sais, tout dépendamment aussi de ce qu'ils sont. Puis, tu sais, des fois, il n'y a pas beaucoup de communication. Et puis, tu sais, comme... Il y a des joueurs, peut-être, OK, qui sont au quatrième trio, troisième trio, tu sais, puis qui ont peut-être des aspirations meilleures que ça, puis ils ont peut-être des qualités meilleures que ça. Mais des fois, il y a des joueurs plus vieux, meilleurs en avant d'eux. Fait que faut que tu gères ça un petit peu, tu sais, pour leurs émotions, leurs attentes et tout. Puis faut que tu leur fasses savoir que, tu sais, il y a du travail, mais il y a une lumière à la fin du tunnel. Il faut que tu gardes le moral, faut qu'ils restent positifs. Parce que si tu fais ça, ils vont jouer meilleur, puis ils se sentiront pas comme juste essayer de survivre dans la ligue, ils vont essayer de vivre.
Martin, t'as toujours été quelqu'un d'assez discret. Là, tu t'amènes à Montréal et tu sais comment ça se passe ici. Tu vas rencontrer les journalistes tous les jours, puis ils vont être 25, 30, 40 aux entraînements, puis encore plus aux matchs. Il y a ça aussi avec lequel tu vas devoir apprendre à composer, là.
Excuse, peux-tu répéter? J'ai pas compris.
OK. Non, j'allais dire que t'es quelqu'un qui a toujours été plutôt discret au cours de ta carrière. Là, t'arrives à Montréal et tu connais là, à quel point le Canadien c'est important et c'est gros. Tu vas devoir composer avec les journalistes à tous les jours, là, des points de presse à tous les jours. Puis ils vont être nombreux aux entraînements, encore plus nombreux aux matchs. Es-tu préparé à ça aussi?
Ouais, mais je pense que ça, je viens de Montréal, ok. Fait que je sais comment que ça marche. J'avais le journal à Montréal chez nous tous les jours, tu sais, en grandissant. Côté média, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les médias. Le média me fait pas peur. C'est sûr, des fois il y a des questions difficiles, mais tu sais, faut que tu essaies de répondre le meilleur que tu peux. Puis je sais que c'est une manière de connecter avec les fans aussi, puis tout, puis tu veux leur donner des informations, mais en même temps, faut que tu fasses attention un peu, tu sais, des fois, de comment tu vas le dire, tu sais, puis faut que je sois sûr que je sois pas trop émotionnel des fois, tu sais, parce que, comme, je sais, j'ai joué avec beaucoup d'émotions, puis tu sais, des fois, t'es fâché ou quelque chose, puis là, t'as le micro d'en face, des fois, ça, tu sais, faut que tu fasses attention, fait que je pense, écoute, je suis un peu plus vieux, là, j'ai plus 25 ou 30 ans, je suis à 46, j'ai un petit peu plus de perspective, puis je suis capable de garder mes émotions en check un petit peu plus.
Merci beaucoup. Bon retour à Montréal.
Merci, Martin.
Martin Saint-Louis. Okay,
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, on va regarder une situation en Mauricie, au Québec, parce qu'un homme, âgé, est décédé mercredi. Ce qu'on comprend, puis on va essayer d'avoir des précisions, il n'a pas été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Trois-Rivières près de 2 heures après son arrivée en ambulance. Et ce qu'on comprend, c'est que, semble-t-il, avant que les patients soient vus et qu'on ait procédé au triage, il peut arriver que les ambulanciers restent avec le patient dans le garage de l'hôpital. Et je vous dis, ça peut avoir, semble-t-il, des délais de parfois 2 heures. Docteur Marianne Lemay est avec nous. Elle est la directrice par intérim des services professionnels au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Docteur Lemay, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est vrai, donc, que les patients restent dans l'ambulance avant d'être triés et que ça peut prendre parfois jusqu'à 2 heures?
Écoutez, juste avant de commencer avec votre question, moi, j'aimerais juste m'adresser à la famille un moment pour leur souhaiter toutes nos sympathies. C'est déplorable ce que ce patient a vécu. Et pour revenir à votre question, Monsieur Arcand, une chose qui est certaine, c'est que à chaque année, au mois de janvier-février, l'affluence vers les salles d'urgence sont plus grandes que à d'autres épisodes de l'année. Donc, lorsque tous les patients qui arrivent en ambulance reçoivent pour arrivent pour être triés. Le pré-triage est bien sûr toujours fait avec le personnel paramédic.
OK, mais parce que là, je comprends pas ce que vous me répondez là. Ce que je veux savoir, est-ce que c'est vrai que l'ambulance arrive puis que l'ambulance peut rester sur les lieux 2 heures avec les paramédics et le patient avant d'être vu au triage?
Alors, dans un contexte d'une grande affluence à l'urgence...
Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Là, je comprends qu'il y a une grande affluence, que vous manquez de personnel, que c'est la COVID, comprends tout ça. Je veux juste savoir si c'est vrai.
Alors, comme je vous répète, à chaque fois qu'il y a une grande affluence à l'urgence, c'est possible qu'il y ait des délais dans les triages, mais bien sûr, toutes les choses sont mises en place pour que la sécurité des patients soit le plus assurée.
OK. Là, on est en train de faire de la politique puis de la bureaucratie. Est-ce que le monsieur est resté, le monsieur qui est décédé, là, est resté dans l'ambulance pendant une période de temps longue, 1 heure, 1 heure 40? Ça se peut, ça?
Il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que présentement, il y a une étude qui est faite du dossier et le dossier a été également remis au coroner. Par contre, puis comme je vous l'ai déjà mentionné tantôt, il y a des délais qui peuvent être encourus par le fort achalandage. Par contre, il y a des parties au niveau qui concernent le dossier qui sont confidentielles et par respect pour nos usagers, on ne peut commenter sur des choses qui sont vraiment précises au dossier des patients.
Docteur Lemay, avec le plus grand respect, ça, c'est l'échappatoire. Moi, je veux pas de détails sur la personne, sur ce qu'elle avait, mais si vous êtes pas capable de me répondre si un patient est resté 2 heures dans le stationnement de l'hôpital, dans l'ambulance, là, on n'est pas dans la confidentialité puis le respect du patient. Fait que j'ai de la misère à croire que vous le savez pas.
En fait, on n'essaie pas de se défiler ici puis de dire qu'il n'y a pas de délai d'attente. OK? Ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. On s'est dit qu'il y a des délais qui sont encourus par tout le contexte que vous avez déjà mentionné. Pour ce patient-là spécifiquement, comme je vous l'ai mentionné, il y a des choses que par rapport à la confidentialité, on ne se peut de mentionner. Pour ce patient spécifiquement-là, je ne commenterai pas les délais compte tenu des études qui sont en cours.
OK. Parlons de façon générale. Est-ce que dans le dernier mois, parce qu'on me parle, là, puis j'ai des paramédics qui me disent ça, là, qui peuvent rester 1 heure, 2 heures, 3 heures sur place avec des patients dans l'ambulance avant que les patients soient triés. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est arrivé?
Les délais, comme on l'a mentionné, sont augmentés. Une chose, par contre, que j'aimerais rappeler, puis on a très...
Non, mais je veux juste comprendre, quand vous me dites que les délais sont augmentés, ça veut dire que le patient reste dans l'ambulance.
Tout comme un patient peut rester, quand il arrive en ambulatoire, dans la salle d'attente, un patient peut rester avec les ambulanciers en attendant de pouvoir, selon son pré-triage, voir l'infirmière qui va précéder au triage. Ça se passe au niveau de l'ambulatoire et ça se passe au niveau de ce qu'on voit au niveau des ambulances.
OK, docteur Lemay, est-ce qu'un des impacts de cette situation, c'est justement le fait que des ambulanciers, des paramédics, là, puis des ambulances sont gelés à l'hôpital et qui retournent sur la route 3 heures plus tard? Bref, ça affecte le service paramédic puis le service ambulancier dans la région.
Une chose que je peux vous assurer, c'est que la très bonne collaboration qu'on a des services ambulanciers fait en sorte que lorsqu'on vit des situations d'engorgement importantes, il y a une flotte de véhicules ambulanciers supplémentaires qui est déployée sur le territoire. Donc, ça fait en sorte que la sécurité des patients qui ont besoin de services paramédics, de premiers répondants, est assurée sur le territoire.
Je sais pas. Écoute, c'est rare que je vais dire ça, là, mais j'ai de la misère à vous croire. Je vous donne un exemple. Là. Je vais citer un paramédic. Encore aujourd'hui, des ambulances ont attendu 3 heures à Trois-Rivières pour qu'on puisse procéder au tri. Pour Shawinigan-Sud, ça a été un peu moins long. Et on nous a dit qu'il y aurait du triage tant et aussi longtemps qu'il n'y aurait pas de lit de libre à l'intérieur. Une des conséquences, c'est que moins de paramédics. Exemple, nous étions 8 ambulances à attendre pour se faire trier. J'ai de la misère à croire que ça n'affecte pas le service ambulancier, moi, ça.
L'information que moi, je peux vous partager, c'est que les mesures qu'on a travaillées avec nos compagnies de services ambulanciers font en sorte qu'il y a plus de flottes de véhicules ambulanciers qui sont déployés. Maintenant...
Combien de plus?
J'ai pas les chiffres présentement avec moi ce matin, mais une chose que je veux vous assurer, c'est que il y a toujours une enquête interne qui est faite, et sans rentrer dans les détails, Il y a des faits qui ont été rapportés dans les médias au cours des dernières journées qui ne concordent pas jusqu'à présent avec les faits qu'on a rapportés avec l'enquête interne. Donc,
OK, vous me dites ce que les médias disent, c'est pas vrai, mais vous ne pouvez pas me dire ce que les faits vous disent. À vous directement, parce que quoi, c'est public, c'est pas public, c'est privé, la confidentialité, c'est tout ça?
En fait, il y a des choses qui ne sont pas concordantes. J'ai pas mentionné que tout était pas vrai. Il y a des choses qui ne sont pas concordantes. Et il y a des choses qui sont liées à la confidentialité du patient qui, malheureusement, okay. Je pourrais pas partager avec okay. vous.
Merci, Dr. Lemay.
Ça m'a fait plaisir.
Ouais. Dr. Marianne Lemay, qui est la directrice par intérim des services professionnels au CIUSSS de la Mauricie, du Centre du Québec. Les échos qu'on a des paramédics, là, c'est que ça a un effet sur la qualité, puis je dirais l'offre de services. Tu peux pas geler 8 ambulances à une place pendant 2-3 heures sans qu'il y ait un impact, là, je veux dire. Puis, tu sais, ils n'ont pas de staff à l'intérieur. Ils manquent de ressources. On comprend tout ça, là. Mais imaginez-vous, vous arrivez en ambulance puis vous restez 2 heures dans l'ambulance. Dernier point, la confidentialité, je respecte ça, là. Dossier médical, mais je pense pas que le délai qu'une personne passe dans une ambulance, dans le parking d'un hôpital, ça touche le dossier patient, puis que c'est de la confidentialité. Puis je vais juste dire que je trouve, puis là, c'est un point de vue personnel, que l'argument, là, c'est personnel, c'est confidentiel, vous n'avez pas le droit de... On s'en sert quand ça fait notre affaire aussi. Puis on a tendance à jouer à l'élastique avec ça beaucoup.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.